Bonsoir. Heureux de vous accueillir à la tribune de la presse de ce soir. Nous aborderons trois thèmes. Bilan de la sortie du président de la République Joseph Kabila à l'étranger. Visite qui a commencé en Belgique jusqu'à New York. Hier jeudi, le chef de l'État a fait un discours à la 62e session de l'Assemblée générale de l'ONU. La situation sécuritaire à l'Est, des nouveaux affrontements ont été enregistrés mardi dernier sur les collines de Karouba et de Gungu entre les éléments insurgés fidèles à Laurent Kunda et les FARDC. Enfin, nous aborderons la question des conflits fonciers au Kasaï oriental. Pour en parler, nous avons trois invités. Mike Mukebai du journal Le Soft paraissant à Kinshasa, Charles Lonkama, rédacteur de la radio catholique Mwinda émettant à Mbandaka dans l'Équateur, il sera au téléphone, et Alexandra Branjon, journaliste à la rédaction anglaise de RFI, sera également au téléphone. Bonsoir. Joseph Kabila est arrivé le dimanche dernier en Belgique après des entretiens avec les officiels belges. Le président de la RDC s'est envolé à New York pour participer à la 62e session de l'Assemblée générale de l'ONU. 15 minutes, c'est le temps de l'adresse du président Joseph Kabila, hier jeudi, à la tribune de l'Assemblée générale des Nations unies. Le chef de l'État congolais a évoqué différents points, notamment la reconstruction de la RDC et le rôle que les Nations unies peuvent jouer au plan social et économique dans la lutte contre la pauvreté. Joseph Kabila a plaidé pour la mobilisation de la communauté internationale face au changement climatique. Il a souligné à ce sujet l'importance de la forêt congolaise. Il a plaidé également pour la réforme de l'ONU devant permettre l'entrée de l'Afrique au sein du Conseil permanent du Conseil de sécurité. Et enfin, le président de la RDC a privilégié l'approche politique et diplomatique dans la recherche d'une solution aux problèmes d'insécurité dans l'est de la RDC. Mike Mukebai, je rappelle que vous êtes du journal Le Soft paraissant à Kinshasa. Le chef de l'État, Joseph Kabila, a-t-il réussi sa sortie?
Je crois qu'à ce stade, il est prématuré de dire s'il a réussi sa sortie. Je crois que les grandes choses ne se passent pas au niveau des discours qui se tiennent à l'Assemblée générale. Les grandes choses se passent dans les contacts, dans la diplomatie de tous les jours. Et je crains fort plutôt que dans la diplomatie de tous les jours, la RD Congo ne soit pas très forte. En tout cas, nous n'arrivons pas à obtenir des résultats dans le sens de nos positions par rapport à la crise de l'Est avec nos voisins. Donc, je considère que c'est juste un discours et que tout le travail reste à faire. Il nous faut d'abord nous-mêmes penser une diplomatie. Il nous est difficile, comme je le disais la dernière fois, de penser cette diplomatie. Pourquoi difficile de penser cette diplomatie? Parce qu'il n'y a pas de cohésion interne. Je ne vois pas comment nous pouvons nous présenter fort à l'extérieur si à l'intérieur nous sommes déchirés par des crises, si à l'intérieur nous ne nous attendons pas. Il y a des questions fondamentales aujourd'hui qui déchirent le pays. Il y a la sécurité à l'Est, le CNDP avec Laurent Kunda, il y a le sénateur Jean-Pierre Bemba qui est encore à l'étranger. Il y a l'UDPS qui n'a pas été impliqué dans le processus. Il y a tant d'autres questions de même nature qui font que nous n'arrivons pas à réaliser la cohésion nationale. Voyez-vous, une ou deux fois, quand le gouvernement prend une initiative pour convaincre à l'extérieur à le soutenir, il y a toujours deux voix à l'intérieur pour dire il n'y a pas respect des droits de l'homme, il ne faudrait pas soutenir ce gouvernement-là. C'est à ces gouvernements de chercher à apporter de réponse à ces questions-là. C'est à ces gouvernements-là d'être respectueux des droits de l'homme pour vider les préoccupations des ONG des droits de l'homme, toujours promptes à critiquer le gouvernement. Donc, je conclue, un discours à ces niveaux, c'est déjà important. Nous avons fait entendre notre voix en tant qu'État, mais il y a plus à faire. Il faut penser une diplomatie et l'amener au quotidien, aller vers les puissances, nous faire entendre pour pouvoir changer la situation, la donne, notamment dans la partie orientale de notre pays.
Merci Mike Mukebai. Charles Lonkama, je signale que vous êtes rédacteur de la radio catholique Mwinda émettant à Mbandaka dans l'Équateur. Quel commentaire faites-vous par rapport au périple du chef de l'État?
Bon, le moins que je puisse dire est que nous sommes admis dans des forums de ce genre-là, c'est déjà une bonne chose. Que le chef de l'État soit accueilli comme il a été en Belgique et aux Nations Unies là, ça démontre que nous avons atteint quand même un certain degré de crédibilité de standing international. Mais encore faut-il que ce que le chef de l'État dit soit mis en application et que ça soit traduit au niveau des faits. Il ne suffit pas seulement qu'il parle, ce qu'il a bien fait, mais que la communauté internationale écoute notre voix et traduise dans les faits les desiderata du chef de l'État. Il ne suffit pas seulement qu'il parle et qu'après, que rien ne change, qu'il y ait toujours ces guerres à l'Est, et qu'il y ait toujours ce problème qui nous assaille d'un peu partout, et que localement ici au Congo, les choses ne marchent pas, ça ne va pas. Il faut que ce que le chef de l'État a dit là soit traduit en réalité dans les faits et dans le quotidien du vécu congolais. Voilà.
Merci Charles Lonkama. Quelle analyse faites-vous de cette sortie du président Kabila? Alexandra Branjon, je précise que vous êtes journaliste à la rédaction anglaise de RFI.
Bien, deux choses. Alors bon, avant de parler de New York, peut-être déjà la Belgique. Hein, il y a deux aspects à sa visite en Belgique. Bon, nous, la presse française, j'ai peu vu de sujets, j'ai peu vu d'articles en parlant. Mais les deux grands points, c'est l'aspect donc évidemment sécuritaire, on en a parlé, et l'aspect économique. Moi, une petite remarque que je fais. C'est sur l'aspect économique, il y a eu pas mal de discussions économiques et je vois que au sorti de sa visite à Bruxelles, donc il y a une mission belge, donc qui va être, il a été décidé qu'une mission belge allait se rendre donc à Kinshasa pour discuter des possibilités d'investissement. Alors je trouvais ça quand même assez significatif, c'est intéressant de se pencher sur ce point de vue, de ce point. Mais il semble que les traditionnels partenaires européens de la RDC sont en train d'être inquiets ou semblent inquiets de l'arrivée de la Chine. Et ça, je dis ça donc 10 jours après que la Chine ait annoncé des investissements importants, donc je crois que c'était 5 milliards de dollars. Donc en RDC, des investissements pour les hôpitaux, les routes. Donc je trouve ça quand même un petit point important à noter, c'est cet aspect financier, cet aspect économique, de voir que quand même la Belgique, tout d'un coup, semble s'inquiéter un petit peu de cette arrivée de la Chine. Alors l'autre point, c'est le point sécurité, qui évidemment domine et domine notamment la visite à New York et aux Nations Unies. Comment interpréter ça? Je pense que le constat est qu'un an après les élections, il y a une dégradation, évidemment. Enfin, en tout cas, vu de l'extérieur, hein, vu d'un point de vue européen, il y a une dégradation très claire de la sécurité à l'Est et une situation qui ne répond pas du tout aux attentes du peuple congolais, en tout cas des attentes au moment des élections. Je vous rappelle quand même, à l'Est, pendant cette année 2006 et juste avant les élections, les Congolais avaient pour priorité donc pacification de la situation dans l'est de la RDC. Donc ça, c'était vraiment quelque chose qui était très fort, une attente très forte. Un an plus tard, c'est pas du tout le cas. Au contraire, la situation semble s'être vraiment dégradée. Donc moi, j'ai compris la visite donc, du chef de l'État congolais à New York comme aussi un appel à la communauté internationale en disant ne nous oubliez pas. On a encore des problèmes. Certes, on a des élections qui se sont bien passées, mais on a encore beaucoup de problèmes à régler.
Merci Alexandra Branjon. Des nouveaux affrontements enregistrés le mardi dernier dans les collines de Karouba et de Gungu, à une vingtaine de kilomètres de Saké, dans le territoire de Massissi. Selon des sources militaires sur place, des insurgés fidèles à Laurent Kunda ont attaqué à nouveau des positions des FARDC vers 5h du matin. Ces combats reprennent dans ce territoire de Massissi après un cessez-le-feu imposé par la MONUC depuis quelques jours à Saké et ses environs. Suivons ce reportage de notre consoeur Gisèle Cage.
Les nouveaux tirs nourris dans le secteur de Karouba et des Ngungu opposent des militaires de la 14e brigade intégrée à des dissidents fidèles à Laurent Kunda. Selon des sources militaires sur place, c'est vers 5h du matin, c'est mardi, que les positions FARDC ont été attaquées simultanément à Ngungu et à Karouba par des insurgés. Ces derniers tentent, selon la même source, de prendre le contrôle de la localité des Ngungu et des positions des FARDC situées autour de Karouba. Selon la même source, ces tirs se sont poursuivis au courant de la journée, mais aucun bilan n'est encore disponible. La 8e région militaire confirme les combats et indique que ce sont les FARDC qui ont été attaqués par des hommes de Kunda. Ces nouveaux affrontements entre les FARDC et des insurgés fidèles à Laurent Kunda surviennent après 2 semaines des cessations d'hostilité réclamées par la MONUC aux 2 belligérants. Une cessation d'hostilité qui était encore observée jusqu'en week-end dernier. Gisèle Kachgoma, Radio Okapi.
Tout en privilégiant l'approche politique et diplomatique, nous devons par tous les moyens, avec détermination et un sens élevé de l'urgence, résoudre le problème résiduel d'insécurité au Nord Kivu. Quant aux groupes armés étrangers, l'appui des Nations Unies est nécessaire pour leur désarmement volontaire ou au besoin forcer leur rapatriement et leur réinstallation. C'est ce qu'a déclaré le chef de l'État Joseph Kabila Kabange au sujet de la question sécuritaire à l'Est, suivant l'extrait de l'adresse du président Kabila.
Tout en privilégiant l'approche politique et diplomatique, nous devons par tous les moyens, avec détermination, un sens élevé de l'urgence, résoudre le problème résiduel d'insécurité au Nord Kivu. Parce que rien ne peut raisonnablement justifier que des populations congolaises continuent à faire quotidiennement l'objet de violences et exactions de tout genre de la part de groupes armés nationaux et étrangers, et qu'elles soient massivement réduites à être des déplacés de guerre. La paix et la sécurité doivent rapidement et à tout prix être rétablies dans cette partie de notre territoire. Elles le seront. Quant aux groupes armés étrangers, l'appui des Nations Unies est nécessaire pour leur désarmement volontaire ou au besoin forcé, leur rapatriement et leur réinstallation.
Signalons qu'aujourd'hui, une accalmie est signalée dans ces zones. Plus de 130 combattants viennent de quitter Goma. Ils ont quitté Goma hier jeudi pour le centre de brassage de Kamina dans la province du Katanga. Ces combattants ont commencé depuis 2 semaines à se désolidariser du CNDP, du général déchu Laurent Kunda, du mouvement Mai Mai du colonel Jackson Kambuta, basé dans le territoire de Lubero, et du groupe Mai Mai de Janvier, basé dans le territoire de Rutshuru. Je m'en vais directement vous poser la question. Mike Mukebai, vous qui êtes du journal Le Soft paraissant à Kinshasa, quel commentaire faire eu égard à l'évolution de la situation à l'Est?
Non, je crois qu'il n'y a pas d'évolution, la situation est restée la même. Le CNDP est présent sur le terrain avec son patron Laurent Kunda. Kinshasa a décidé de régler la question par la force après avoir longtemps hésité. J'ai toujours posé la question de savoir ce que Kinshasa veut réellement, parce qu'il faut lever une fois pour toutes l'option. Si on croit que c'est l'option militaire qui est la voie la plus appropriée, il faut y aller jusqu'au bout et non s'arrêter à mi-chemin à un moment donné pour tenter de négocier. Comme on l'a vu en décembre, il y a eu des négociations à Kigali, il y a eu un processus qui a été mis en place, à savoir les brassages, le mixage entre les forces du CNDP et les FARDC. Et un matin, puisqu'il y a eu une pression de la part de l'opinion à Goma, on a arrêté le mixage. Et voilà qu'aujourd'hui, on est en train de procéder par une offensive militaire pour régler la question. Et en même temps, j'ai toujours pensé que nous ne pourrons pas, c'est mon analyse, je peux me tromper, beaucoup de gens avec qui j'ai discuté n'ont pas été d'accord avec moi, mais j'ai monté mon analyse, j'ai toujours pensé que nous ne pouvons pas régler la question de l'Ukunda sans normaliser avec le Rwanda. Donc il nous faut normaliser avec le Rwanda. Je crois que la normalisation avec le Rwanda nous permettra de régler avec Kunda. La réalité sur le terrain, elle se présente de cette façon-ci, que le Rwanda reproche à la République démocratique du Congo de continuer à héberger, quand j'ai dit héberger entre guillemets, ces deux groupes armés, ils sont là, pas forcément par la volonté de la République démocratique du Congo, mais ils sont chez nous, et dans une certaine mesure, on peut dire que leur présence est tolérée. Et de l'autre côté, nous accusons le Rwanda d'apporter son soutien à Laurent Kunda. Donc, finalement, il y a des parts et d'autres, des groupes les armées, que l'une et l'autre partie impute à son interlocuteur. Donc, si nous normalisons avec le Rwanda, ça signifie qu'à cette table de négociation, nous allons parler aussi de la question des FDLR et de la question du CNDP. Or, la dernière conférence de presse du chef de l'État m'a fait comprendre que la normalisation n'est pas pour demain, parce qu'il a clairement dit qu'il faudra attendre qu'il y ait un apaisement à la frontière commune pour qu'enfin nous puissions voir la rouverture de l'ambassade rwandaise à Kinshasa et vice-versa. Donc moi j'ai toujours maintenu cette position que ce n'est pas la voie militaire qui va ramener la paix à l'Est. Le gouvernement de mon pays est un gouvernement souverain, il est libre d'utiliser la force, je respecte, mais je pense que la force ne résoudra rien, parce que la question Kunda est en réalité une question qui concerne un groupe ou tout au moins une partie d'un groupe ethnique, donc les Tutsis. Donc neutraliser Kunda militairement ne résoudra pas le problème.
Je ne vous coupe pas la parole, Mukebai. Vous avez suivi l'extrait du chef de l'État à la tribune de la 62e session de l'Assemblée générale des Nations Unies. Le chef de l'État a parlé d'une approche politique et diplomatique pour résoudre, je pense, cette question. Et on a le journal Le Phare d'aujourd'hui qui dit que Laurent Kunda réclame le dialogue. Est-ce qu'on peut parler, ce que vous dites est vrai, les semaines antérieures, le gouvernement congolais tablait sur une voie militaire pour résoudre cette question. Aujourd'hui, on nous parle de privilégier, n'est-ce pas, l'approche politique et diplomatique. Quel commentaire pouvez-vous faire?
Vous savez, je m'interroge sur le contenu de ces discours que vous évoquez. Je me demande si, quand le chef de l'État parle d'une approche politique et diplomatique, parle-t-il de Laurent Kunda ou parle-t-il de groupes armés étrangers? Je n'ai pas senti dans ses discours que cette approche impliquait les deux niveaux de cette crise. Je crois plutôt qu'en parlant de l'approche diplomatique, je peux me tromper. Je crois à mon point de vue que quand le président de la République parle de l'approche diplomatique, il fait plutôt allusion à la crise qui nous oppose à nos voisins, au Rwanda, à l'Ouganda et dans une certaine mesure au Burundi. Alors, si tant est que aujourd'hui il est favorable, le chef de l'État ouvre la voie à la diplomatie, à la politique pour régler la question de Kunda, je ne peux qu'encourager, mais alors, en ce moment-là, il faut s'y engager fermement. Parce que moi, ce que je crains, je l'ai dit la fois passée.
Fermement, c'est-à-dire?
Mais s'engager fermement dans la voie de diplomatique, négocier, aller jusqu'au bout. Et non, le faire comme on l'a fait jusque-là, en hésitant. On avance d'un pas, on s'arrête, on essaye de revenir sur le terrain militaire. Avec les pressions de la communauté internationale, on se rend compte qu'on ne peut pas continuer sur le terrain militaire. On s'arrête. Et puis on aura passé 4 ans comme ça sans résoudre la question. Donc j'ai dit, si tant est vrai qu'il y a maintenant de chances de passer par la voie diplomatique, alors allons-y, engageons-nous fermement et pour une fois réglons cette question plutôt que de la laisser pourrir, parce que j'ai comme l'impression que plutôt Kinshasa joue à un pourrissement entre les deux pressions, parce que Kinshasa fait face à deux pressions. Il y a la pression de l'opinion à Goma qui veut à tout prix régler la question militairement, il y a la pression de la communauté internationale qui demande à dialoguer, et finalement Kinshasa fait semblant d'attaquer sans attaquer réellement, fait semblant de négocier sans négocier réellement, mais en réalité c'est le pourrissement sur le terrain.
Merci Mike Mukebai. Alexandra Branjon, vous êtes journaliste à la rédaction anglaise de RFI. Quelle est votre lecture de cette situation à l'est de la République? Parce que on nous signale quand même qu'il y a 130 combattants qui viennent de rejoindre le centre de brassage de Kamina. Ces derniers se sont désolidarisés de leur ancien chef, notamment Laurent Kunda et les autres Jackson. Est-ce qu'on peut parler des avancées également par rapport à la déclaration du chef de l'État à la tribune de la 62e session de l'Assemblée générale des Nations Unies?
Pour rebondir sur ce que disait mon confrère là du Soft sur l'avancée ou le manque d'avancée ou le peu d'avancée de la situation dans l'Est, c'est vrai qu'il y a un constat, en tout cas vu de l'extérieur, c'est que rien n'a changé. 3 ans, 4 ans, 5 ans plus tard, ce sont les mêmes acteurs, les mêmes problèmes et toujours ces mêmes problèmes de sécurité. Et ça, c'est vrai que c'est assez décevant. Décevant pour la région, mais décevant pour le Congo, qui pendant ce temps-là quand même, a eu des élections, il y avait quand même des certaines attentes, des promesses. Et de ce point de vue-là, on a l'impression que cette sécurité fait que le Congo s'embourbe et n'arrive pas à profiter d'un certain élan, et notamment un élan économique dont il pourrait bénéficier. Je veux dire, si la Chine vient investir au Congo, c'est qu'il y a un potentiel, c'est qu'il y a des choses à faire, il y a des partenariats à nouer. Et malheureusement, ce problème de sécurité dans l'Est fait que ça ralentit ce pays. Donc moi, c'est vraiment la première chose qui me marque. Deuxièmement, alors, une fois de plus, non seulement on parle des troupes de Kunda, mais je pense qu'il y a 2-3 semaines, on parlait donc de troupes Maïmaï. Alors bon, moi je suis ça de loin, donc je serais pas capable de vous dire qui exactement, mais donc de certains groupes Maïmaï qui se lançaient également dans les combats. Vu de l'extérieur, c'est vrai que c'est assez choquant. Le Congo est quand même un pays qui a eu des élections, il y a un gouvernement qui est reconnu. On a du mal à comprendre à l'extérieur comment est-ce que 200, 300, 400 Maïmaï, je ne sais pas exactement combien ils sont, comment et de quel droit ces gens se permettent de déstabiliser toute une région, tout un pays. Il y a eu, une fois de plus, un processus électoral. De quel droit est-ce que ces gens-là se permettent de sacrifier l'avenir de tout un pays? Donc, bon, ça, c'est le constat. Vu de l'extérieur, c'est vrai que c'est assez choquant. Alors, quelle est la solution? Est-ce que c'est une solution militaire, diplomatique? Bon, c'est pas à moi de donner la réponse, je sais pas. Mais visiblement, la communauté internationale et l'appel du président Kabila à New York semblent aller vers une plus forte implication de la communauté internationale, une implication nécessaire pour tenter de trouver une solution à ce problème de sécurité qui, une fois de plus, ne permet pas au Congo de bénéficier d'une reprise économique et de bénéficier de tirer les fruits un petit peu de son évolution.
Alexandra Branjon, j'aimerais un peu vous poser une question, surtout en ce qui concerne les FDLR. Est-ce que la réponse au problème des FDLR ne réside pas dans un dialogue inter-rwandais?
Inter-rwandais, écoutez... Je sais pas, je pourrais pas, je sais pas. Ce qui est sûr, c'est qu'il faut résoudre ce problème. Il faut le résoudre plus que par un désarmement volontaire des FDLR, parce que ça va au compte-gouttes, que ça va pas assez vite, et que c'est le nœud de tout le problème. Je vous rappelle que le général déchu Nkunda utilise quand même cet argument de la présence des FDLR pour lui-même justifier de sa présence et justifier de sa raison d'être. Donc on pourrait essayer de découdre et de dire, bon, bah, alors si on règle le problème des FDLR, lui-même n'aurait plus de raison d'être, ainsi que les Maïmaï. Donc oui, il faut en effet... se concentrer sur ce problème des FDLR et des troupes étrangères au Congo. Alors, je ne sais pas dans quoi réside la solution, mais clairement, il faut faire plus et ne pas dépendre uniquement sur un désarmement volontaire de ces troupes.
Merci Alexandra Branjon. Charles Lonkama, vous êtes rédacteur de la radio catholique Mouinda et émettant en Mbandaka. On a signalé de nouveaux affrontements dans le colline de Karouba et de Ngungu à une vingtaine de kilomètres de Sake dans le territoire de Massissi. Et selon des sources militaires sur place, des insurgés fidèles à Laurent Nkunda ont attaqué à nouveau les positions des FARDC. Et il y a en plus le chef de l'État qui, au cours de son adresse à l'Assemblée générale des Nations Unies, a parlé de privilégier une approche politique et diplomatique et pour, avec détermination, avoir un sens élevé pour résoudre le problème résiduel d'insécurité au Nord Kivu. Quelle est votre lecture par rapport à cette situation?
Bon, par simple, hein, j'ai toujours prôné, quant à moi, la voie diplomatique pour résoudre conflits à l'Est.
La voie diplomatique, mais... on a commencé avec la voie diplomatique. Vous vous rappelez, à un certain moment, le gouvernement de Kinshasa avait envoyé des émissaires pour aller négocier avec Laurent Kunda. Je pense que c'est ce qui nous a amené au mixage. Et à ce jour, on doit toujours continuer avec la diplomatie. Pourquoi, selon vous?
Justement, là où les bas blessent, je ne comprends pas que en même temps qu'on prend la voie diplomatique, que Kunda et les siens continuent à narguer le gouvernement congolais de cette façon-là. Alors moi, je pense qu'il faut des moyens plus solides, plus même militaires, hein, dans ces cas-ci, parce que la vie humaine là-bas est considérée comme terre à terre. On s'entend pour qu'il n'y ait pas de guerre, et voilà que on déclenche des hostilités. Et voilà, ça ne va pas comme ça. Il faut que le pays soit fort et présente des moyens appropriés pour mettre fin à cette situation. Et je ne comprends pas non plus que la MONUC soit là et que ces choses se dégradent tout le temps comme ça. Alors, quant à moi, je pense que, comme le chef de l'État l'avait dit l'autre fois, les carottes sont épuisées. Les carottes sont épuisées, bon, il faut parfois le bâton, hein.
Merci Charles Lokama. Je vois Mike Mukebai en train de me regarder. Une réaction?
Bon, alors, je disais à propos de la question de FDLR, par rapport à ce qu'Alexandra a dit hier, a dit tout à l'heure, excusez-moi. Oui. Donc, la question a été de savoir si ce n'est pas une affaire interne au Rwanda. Moi, je suis totalement d'accord que c'est une affaire interne au Rwanda. C'est d'ailleurs une question que je connais très bien. J'ai passé 2 ans à Kigali pour diriger les pôles du soft international sur place. Donc c'est une question que j'ai eu à traiter pendant tout mon séjour de 2 années au Rwanda. Mais c'est là qu'elle est la RD Congo est piégée quand nous disons que c'est une affaire interne au Rwanda. Affaire interne au Rwanda, mais avec des groupes armés qui sont chez nous. C'est nous qui sommes victimes des exactions de ces groupes armés. C'est nos populations. Donc, de toute façon, il faut reconnaître que si ces groupes sont chez nous, c'est par faiblesse, c'est parce que nous n'avons pas réussi à protéger l'intégrité de notre territoire. Sinon, ces troupes ne seraient jamais rentrées chez nous. Donc, affaire interne au Rwanda, mais en même temps, une affaire qui touche au plus haut point le Congo. Et là-dessus, c'est comme ça que je me suis toujours demandé, avons-nous, nous, le moyen d'imposer au Rwanda une solution négociée avec les ex-Soirs et les Interahamwe? Aujourd'hui, diplomatiquement et économiquement, nous n'avons pas ces moyens. Alors nous continuons, nous, à demander au Rwanda de régler cette question diplomatiquement, mais en même temps, ces gens vivent chez nous, ceux-là qui tuent, ce sont nos enfants, nos femmes, nos parents, nos grands-parents. Donc il faut que notre gouvernement assure la sécurité à ses citoyens. Et quand on dit, par exemple, que tous les moyens seront utilisés pour ramener la paix à l'Est, en rapport avec la situation créée par Laurent Kunda. Mais autant faire la même chose pour le FDLR. Le FDLR tue nos enfants, tue nos femmes. Donc, c'est à notre gouvernement, avant de demander au Rwanda de régler cette question par la voie négociée avec le FDLR, il appartient à notre gouvernement de sécuriser avant tout ces populations.
Est-ce que notre gouvernement en a le moyen, Mike Mukebai?
Mais c'est là que j'ai dit, si nous n'en avons pas le moyen, réfléchissons. Tout le problème est qu'il y a trop de préjugés dans cette région des Grands Lacs, trop de préjugés à l'Est, au point où nous ne pouvons pas avoir des actions concertées. La meilleure solution, à mon point de vue, a été toujours... J'ai toujours pensé qu'il faille passer par une solution concertée. Mais il est impossible. Si vous dites, nous allons mener des offensives communes, conjointes entre le Rwanda et l'Ouganda, l'opinion à l'Est ne l'acceptera pas. Mais alors, essayons-nous de négocier, ou avec l'Union européenne, ou avec les Nations unies elles-mêmes, pour qu'on nous donne des moyens militaires pour pouvoir déloger les ex-Soirs de chez nous. Négocions, posons les problèmes clairement. À un moment donné, la résolution avait été prise par l'Union africaine, mais n'a jamais été appliquée. Encourageons cette voie, allons vers l'Union africaine, qu'on mette à notre disposition des troupes pour que nous puissions le faire. Sinon, nous continuerons, nous, à dire que c'est une question interne au Rwanda. Pendant ces temps, le Rwanda est tranquille, Kigali est tranquille, Paul Kagame est tranquille, il construit son pays, alors que chez nous, il y a des groupes armés qui nous empêchent à nous d'amorcer le développement du pays. Donc, arrêtons d'appliquer la politique de l'autruche. J'ai lu le communiqué du vice-ministre des Affaires étrangères, j'ai trouvé que c'était très grave. Il dit que nous n'avons jamais invité la FDLR chez nous. D'accord, nous ne l'avons jamais invité, mais ils sont où? À qui ils causent du tort? À nous. Alors, mais prenons notre responsabilité en tant que gouvernement, en tant que nation. Merci. C'est nous qui sommes victimes et non le Rwanda.
Merci Mike Mukebayi. Rapidement, Alexandra Branjon, le président du Rwanda, Paul Kagame, hier au cours de son adresse à la tribune de la 62e Assemblée Générale des Nations Unies, il a demandé à la communauté internationale et au gouvernement congolais qu'il puisse s'activer pour mettre fin à l'action des forces négatives qui commettent des atrocités à l'est de la RDC. Cet appel à la communauté internationale, pensez-vous que la communauté internationale, et c'est selon la vision du président Paul Kagame, ne fait pas assez.
Je voulais juste rebondir sur ce que disait mon confrère auparavant, sur le fait que ce soit une affaire interne au Rwanda. Moi, je ne suis pas tout à fait d'accord. Je pense qu'il faut aussi que le Congo fasse un peu, prenne ses responsabilités. Certes, hein, le Congo est victime d'une situation sécuritaire, mais mon confrère disait non, le Congo n'a pas réussi à protéger ses frontières. C'est pour ça que les FDLR sont venus. Je ne pense pas que c'était tout à fait ça, la situation en 94-95. Les FDLR, enfin en tout cas les réfugiés ont quand même été accueillis au Congo. Donc la situation n'est pas tout à fait la même. Deuxième chose,
pardon, avec
énormément, il y a eu. Oui,
Alexandra, il y a Mike qui veut réagir par rapport à un éclaircissement.
Attendez, j'ai pas fini.
Bon, continue.
Il y a eu également, alors à raison ou à tort, c'est pas à moi de juger, mais il y a eu également des accusations dans le passé que l'État congolais aidait en tout cas les FDLR armés ou alors c'est pas à moi d'en juger, mais ce que je veux dire, c'est juste, pour moi c'est pas qu'une une affaire interne au Rwanda, c'est une affaire qui maintenant est malheureusement pour le Congo est également devenue une affaire congolaise. Donc il s'agit aux deux pays de résoudre ce problème et pas juste de le repousser dans les mains du Rwanda.
Merci Alexandra. Je vous passe rapidement la parole, Mike Mukebayi. Rapidement.
Juste deux petites mises au point. Je crois qu'il y a un malentendu entre Alexandra et moi. J'ai jamais dit que cette question était essentiellement qu'elle n'était qu'une affaire interne. J'ai dit ici c'est une affaire interne au Rwanda, mais la responsabilité de la République démocratique du Congo est plus qu'engagée parce que ces FDLR sont chez nous et quand ils tuent des Congolais. Je crois que nous sommes d'accord, ça c'est de un. Et de deux, Alexandra, je crois que ça c'est historique. C'est comme ça que j'ai dit que nous n'avons pas sécurisé nos frontières. Les FDLR, les réfugiés rwandais ne se sont pas retrouvés qu'en République démocratique du Congo en 94. Ils se sont retrouvés aussi en Tanzanie. En Tanzanie, les frontières tanzaniennes ont été fermées et les réfugiés ont été désarmés. Chez nous, on les a laissés entrer avec armes et bagages. Ils ont amené chez nous et la banque centrale à l'époque et toute l'armée et les bus de transport en commun, tout l'appareil.
Merci Mike Mukebayi. Vous êtes du journal Le Soft, je rappelle, ce journal qui paraît à Kinshasa. Donc nous passons à notre troisième thème. Au Kasaï oriental, deux conflits fonciers. Le premier opposait les habitants de Benampatu à ceux de Benantenda au Kasaï occidental. Le deuxième, celui de la semaine dernière à Katanda, qui a opposé les habitants de trois groupements, à savoir les Benamwembia, les Benanshimba et les Benakapuya. Retour sur les faits avec Julien Yamouini.
Au Kasaï oriental, plus particulièrement dans les districts de Tshilenge, les trois quarts des conflits sont fonciers, disent les magistrats, qu'il s'agisse des gisements de mines de diamants ou des terres arables. L'exploitation des terres finit invariablement par des interminables conflits entre les groupements. Pour le seul mois de septembre, deux conflits ont secoué la province. Le premier a éclaté le 13 septembre dernier, a opposé pour la seconde fois consécutive les Benampatu et les Benantenda du Kasaï occidental. Dans cette zone, les deux parties se disputent les terres arables situées dans la localité de Kajingu. Bilan des affrontements, deux personnes tuées et plus de 200 maisons brûlées. Le deuxième conflit remonte à la semaine dernière à Katanda. Il a mis aux prises trois groupements qui vivent en antagonisme en raison d'un conflit foncier qui date de plusieurs dizaines d'années. Ici, la loi foncière n'est pas de mise. C'est le sol de nos ancêtres, clament haut et fort les autochtones. Comme on peut les constater, dans le premier cas, la délimitation de frontières entre le Kassai oriental et le Kassai occidental n'est pas claire, d'où la résolution de la bipartite entre les deux provinces de faire appel à l'Institut géographique pour préciser les frontières. Mais là encore, il n'y a pas de suivi. Aucune décision n'est prise jusqu'ici, depuis la dernière réunion de cette bipartite. Julien Nyamwenyi, Mbujimayi.
Mike Mukebayi, vous êtes du journal Le Soft qui paraît à Kinshasa. La RDC, très vaste, avec des espaces pratiquement inoccupés et des conflits fonciers.
Oui, mais tout à fait normal. C'est pas parce que nous avons des espaces vastes et très occupés qu'il peut pas avoir de conflits. Parce que les gens protègent plus les espèces, les espaces qu'ils occupent. C'est avant tout ça leur terre. Les espaces occupés ne sont pas leur terre. Où sont les terres, où sont les terres de ceux-là qui sont là-bas? Mais je crois que cette question découle avant tout, à mon point de vue, d'un état d'esprit, hein. Donc ça voudrait dire qu'il y a comme un conflit entre notre culture, nos traditions et aujourd'hui la réalité moderne qui veut qu'on se soumette à une justice. Il y a des gens qui ont de la peine à faire la part des choses entre les deux. Ça voudrait dire que c'est la terre de mes ancêtres. Donc je comprends très mal qu'il y ait un État, qu'il y ait un gouvernement qui vienne réglementer l'occupation de cette terre. Et tant que cet état d'esprit persistera dans la tête de certains de nos compatriotes, faute d'instruction, faute de formation, nous connaîtrons ce genre de conflit. Je vais faire une petite digression. J'ai suivi un haut responsable quelques jours par une cassette qui m'a été envoyée par les Katanga. Depuis le Katanga, j'ai suivi M. Kyungu Akumwanza, qui est le président de l'Assemblée provinciale, entrer dans haranguer la population d'écologie et s'interroger en disant, il disait, « Inchi, Nkumu, Nkumu,
c'est-à-dire
donc, c'est-à-dire t'es propriétaire foncier ou bailleur, hein, propriétaire d'une... Tu comprends? Il faisait une nuance pour dire aux autochtones d'écologie qu'écoutez, vous êtes les propriétaires terrains. Ceux qui viennent ici, parce qu'il parlait, il faisait allusion au retour des Kassaïens qui reviennent en masse au Katanga, les Kassaïens qui en avaient été chassés les années 92, pour dire ces gens qui viennent, ils ont construit ici, mais ils ne sont pas propriétaires de terrain. Vous êtes des droits de par la nature propriétaires ici, donc ils ne peuvent pas vous réclamer la maison. Vous voyez déjà si au niveau d'un responsable politique, il y a cette perception de la terre, de la propriété terrienne, foncière, et à fortiori chez les habitants. Moi, je crois qu'il y a un problème d'éducation et de formation, et c'est tout un processus, et tant que les gens n'auront pas adhéré à cette conception moderne de la propriété foncière, nous connaîtrons toujours ce genre de conflit.
Merci Mike Mukebayi. Charles Lonkama, vous êtes rédacteur de la radio catholique Mwinda émettant en Mbandaka dans l'Équateur. Votre analyse rapidement de cette situation?
Tout cela, c'est simplement la dualité, modernité et tradition. Donc, les gens confondent les choses. Ils pensent que la terre leur appartiennent éternellement comme ça à la terre. Donc le sol et le sous-sol appartiennent à l'État. Et les gens doivent quitter des idées surannées pour se comporter en citoyen d'un État moderne et comprendre que c'est l'État qui est propriétaire du sol et du sous-sol. Il n'y a pas question d'aller déloger les gens ou bien il n'y a pas question d'aller se proclamer seigneur de terre, alors que c'est l'État qui doit réglementer tout cela. C'est un conflit qui existe un peu partout dans ce pays, mais avec une certaine dose de changement de mentalité, les choses pourront évoluer. Mais dans la mentalité de certaines personnes, c'est la terre de leurs ancêtres et ils doivent en disposer comme ils veulent.
Charles Lokama, je veux dire, ces populations-là qui disent que ce sont leurs terres à eux, n'ont-ils finalement peut-être pas raison parce qu'ils sont liés à ces terres de par leur culture, de par leurs ancêtres? Alors il faudrait quoi? Il faudrait que l'État les fasse partir de leurs terres?
Mes chers confrères, vous savez que pour utilité publique, l'État est capable de posséder une terre à une population pour l'intérêt public. Ici chez nous, en Mbandaka, par exemple, nous avons un site pétrolier très important, mais les travaux piétinent parce que
les propriétaires ne s'entendent pas et les bailleurs ne savent pas à qui se confier pour commencer ces travaux-là.
Merci, merci Charles Lonkama. Alors, Mike Mukebai, quelle solution peut-on apporter par rapport à cette question? Il y a d'une part les gens qui disent que la terre de leurs ancêtres et d'autre part l'État qui dit que non, l'État est propriétaire du sol et du sous-sol, donc c'est l'État qui gère. Et vous avez d'ailleurs illustré ça par rapport à ce que le président de l'Assemblée provinciale du Katanga a dit, Kyungu.
Oui, non, je crois, je l'ai dit, c'est un processus, hein, c'est un état d'esprit. Cette dualité, à mon point de vue, est vécue dans tous les secteurs, dans la vie des Congolais, un peu partout. On retrouve cette dualité dans la conception que nous avons de la terre, on retrouve cette dualité dans la conception que nous avons de la solidarité, que nous appelons solidarité africaine, qui signifie en clair ici chez nous, le parasitisme. Quelqu'un émerge de la famille, 100, 200 personnes viennent vivre à ses crochets, mais tout ça ne peut changer qu'avec le temps, hein, c'est tout un processus, c'est une question de formation, de culture, mais il y a une autre dimension pratique qu'il faut prendre en compte, qu'il faut chercher à régler déjà aujourd'hui, c'est la question de l'administration de la justice. Dans la plupart des cas, ces conflits finissent par s'exacerber faute d'une solution de la part de la justice. Vous savez ce qu'est la justice de notre pays. Je ne veux pas dire ici qu'elle est corrompue. Je me retiendrai. Mais bah, écoute, elle est ce qu'elle est.
Merci, merci Mike Mukebai. Là, c'est un autre débat. C'en est fini ainsi ce soir pour cette tribune de la presse. Merci à Nadine Foula qui l'a réalisé. Merci à nos invités. Nous avions dans ce studio Mike Mukebai du journal Le Soft paraissant à Kinshasa, Charles Lonkama de la radio Mwinda émettant à Mbandaka dans l'Équateur et Alexandra Branjon, journaliste de RFI du service anglophone. Nous signalons que c'était leur dernière participation à cette tribune. Merci également à Sylvain Baouguéré qui était à la technique.